Alors, 8h23 avec tout ça. Ray, bonjour.
Bon matin, messieurs.
Salut, alors, on va parler de tennis parce que c'est le début du US Open à New York.
Oui, début du 140e tournoi du US Open à huis clos, sans spectateurs. Ça ne sera pas la même chose. J'ai regardé le tournoi de Cincinnati là, qui avait lieu à New York.
Il y avait du monde dans les estrades, Ray, pour la finale.
Oui, oui. Ben, tu sais, le staff, les administrateurs, les coachs, le personnel autour des joueurs. Effectivement, il y avait quelques centaines de personnes. Mais tu sais, à la fin, là, parmi tous les sports que j'observe depuis le début, le retour, la reprise des activités avec la pandémie, là, je pense que le tennis est le plus affecté par le manque de spectateurs puis le manque d'ambiance. Puis c'est difficile parce que, tu sais, c'est silencieux au tennis, lors des points, bien entendu. On avertit les gens qui bougent un peu, les téléphones. Puis, mais c'est comme, ça fait comme un gros caisson vide. Et c'est comme un entraînement de joueurs. J'en ai vu des entraînements de joueurs professionnels, puis ça donne ça comme effet. Le tennis, bonne qualité. Je pense que les joueurs s'ennuient un peu de ce feeling-là avec les fans, mais c'était pas pareil. Le US Open, c'est financièrement un des plus gros tournois de sport au monde. C'est 399 millions de revenus en deux semaines de tournoi. Puis on s'attend, Paul Alain, à ce que ça baisse cette année de 80%. Évidemment, il n'y a pas de loge de vendu, il n'y a pas d'achat de billets. Fait que forcément, il y a une grosse coupure à ce niveau-là. Les commanditaires restent présents parce que la visibilité va être là. Mais la pandémie a fait son œuvre, puis ça va être différent. Puis il y a deux choses que je vais adresser aujourd'hui. Je veux parler un peu de l'intégrité du tournoi, étant donné le fait qu'il y a quand même un grand nombre de joueurs et de joueuses absents. Chez les hommes, Nadal, Federer, mon fils, Wawrinka, puis Kyrgios. Bon, on peut dire que Kyrgios est rendu 40e au monde, mais ça n'empêche pas que lui, il vend des billets.
Une personnalité, surtout.
Ah oui, oui, il offre un spectacle, il est très compétitif, il est capable de battre n'importe qui, mais il fait des frasques, puis de temps en temps, il s'élimine lui-même. Chez les femmes, Barty, Halep, Svitolina, Bianca, not Bianca, Kiki Bertens, Belinda Bencic, ça c'est 6 des 10 meilleurs au monde. Fait que forcément, le tournoi n'a pas la même valeur historiquement pour le cumulatif des tournois majeurs. Parce que ça demeure un tournoi qui va prendre sa place dans les annales du tennis. Puis Djokovic qui essaie d'arriver à 18, puis de rattraper Nadal puis Federer. Et Serena Williams qui essaie d'égaler depuis le mois de janvier 2017 à l'Open d'Australie où elle avait gagné. Depuis ce temps-là, elle essaie d'attraper Margaret Court qui en a 24. Fait que c'est comme, c'est peut-être sa dernière chance parce qu'il manque tellement de compétition côté féminin.
Mais j'allais te dire, c'est quand même le sport où il y a moins de contacts par rapport, par exemple, au hockey, au football, même au baseball. Je veux dire, tu as deux joueurs, mettons, là, sur un court qui sont à bonne distance puis qui se renvoient des balles.
Oui. Mais moi, je pense que le problème des joueurs et des joueuses absentes, Paul, c'était de voyager aux États-Unis. Littéralement, ouais, là, ouais, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'Européens, d'Européennes, puis de gens de l'extérieur du continent ici qui ont décidé que ça ne valait pas la peine, sachant que le reste de la saison de tennis va se dérouler en Europe ou en Asie. Fait qu'un gars comme Nadal s'est dit, garde, la semaine après le US Open, c'est le Masters 1000 à Rome, suivi de Roland-Garros. Alors il s'est dit, faire toutes les quatre en cinq semaines, un peu difficile, je vais me concentrer sur ma surface préférée. Puis ça va faire un gros test pour les joueurs qui vont vouloir faire le US Open puis traverser en Europe tout de suite après pour jouer les tournois sur terre battue. Fait que c'est un choix que les joueurs ou joueuses ont fait. Mais New York, même si c'est l'État qui gère le mieux la pandémie, ça demeure aux États-Unis puis il y a quand même une certaine crainte à ce niveau-là. L'autre point que je veux discuter rapidement, c'est que Novak Djokovic et notre Canadien Vasek Pospisil sont en train de créer un peu, pas une révolution là, mais une grosse résistance à ce qu'on appelle la ATP. Ils sont en train de créer, pour la première fois, un syndicat de joueurs, propriété des joueurs. Fait qu'eux autres, ils décident qu'ils vont aller à l'encontre de ce qui existe. Ils vont appeler ça le Professional Tennis Players Association. Fait que c'est un peu différent, là, mais pas tant que ça. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux règles, au partage des revenus offert depuis 1990 à peu près avec la ATP. Puis c'est parce que Pospisil, au fond de lui-même, c'est un joueur un peu, mettons, loin dans les top 100, mais pas dans les top 50 au monde. Ce qu'il veut, lui, c'est d'assurer des meilleures bourses aux joueurs de deuxième niveau. C'est une bonne cause, ça, effectivement. Sauf que Pospisil et Djokovic ont beaucoup d'opposants à ça, dont Federer, Nadal, Andy Murray et tous les autres qui veulent un peu trouver une façon d'harmoniser la ATP, puis laisser la chance aux nouveaux dirigeants de la ATP de mettre en place un nouveau programme. Finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la controverse puis de la bisbille à l'intérieur du circuit masculin, à un moment où on est encore en pandémie, puis le tournoi, puis le tennis en général essaie de se remettre sur ses pieds. Fait que ça va être à suivre ce qui va se passer là, surtout avec le début du US Open cette semaine.
Très bien, merci. Ray, peut-être un mot sur les Alouettes là, qui perdent leur quart arrière.
Ouais, Vernon Adams qui profite d'une clause. Quand on a annoncé que la saison n'aurait pas lieu dans la Ligue canadienne de football, on a permis aux joueurs de se libérer de leurs obligations contractuelles pour tenter leur chance aux États-Unis. C'est ce que Vernon Adams a annoncé hier. Il a dit, si jamais là, je n'ai aucune opportunité dans la Ligue nationale, il va être de retour avec les Alouettes en 2021. Écoute, je pense pas là, qu'il a ce qu'il faut pour devenir un quart arrière dans la Ligue nationale. Mais peut-être qu'il sait déjà qu'il y a de l'intérêt, alors il s'attend peut-être à avoir une invitation pour participer à un camp d'entraînement. Faut dire que la saison commence la semaine prochaine dans la Ligue nationale de football. On est déjà pas mal avancé. Il y a peut-être des équipes là, qui s'aperçoivent que leur troisième quart arrière n'est pas ce qu'ils pensaient. Et on peut peut-être avoir un gars comme Vernon Adams, qui est un gars très mobile. C'est peut-être la seule qualité qui pourrait lui permettre d'entrer dans la Ligue nationale de football. À ce moment-là, on l'utiliserait dans un rôle très spécialisé comme troisième quart arrière ou encore comme membre de l'équipe de réserve.
Merci beaucoup. 8h30.